Parole d'auteur.
Aujourd'hui, chers et fidèles auditeurs, je vous emmène en voyage, un voyage un peu spécial, dans le temps et sur l'océan, puisque nous allons accompagner la Statue de la Liberté dans son épopée transatlantique, de Rouen à New York, en compagnie de Gabrielle Saint-Geniez, première reporter féminine de La Dépêche. Tel est en effet le sujet du voyage de Lady Liberty, publié aux éditions des Presses littéraires en 2024, et premier roman d'Audrey Marty, que j'accueille aujourd'hui.
Bonjour à tous et bonjour à toutes.
Bonjour Audrey Marty, comme je le disais, le voyage de Lady Liberty, paru en 2024 aux éditions des Presses littéraires, est votre premier roman de fiction. Mais ce n'est pas votre première publication. Commençons par un bref rappel de votre parcours.
C'est mon premier roman, mais effectivement j'ai écrit d'autres livres précédemment, donc essentiellement des biographies et des livres d'art, essentiellement aussi régionalistes.
Oui, je vois le Grand Toulouse des peintres, peintres et couleurs d'Occitanie, mais vos derniers ouvrages sont plutôt des biographies.
Oui, voilà, le tout premier c'est Le Destin fabuleux de Jeanne Dieu Lafoy qui est sorti chez Le Papillon Rouge en 2020. Et ensuite, j'ai fait un autre livre qui s'appelle Nouma Awa, Reine des Fauves, qui est sorti en 2023 aux éditions Métropolis. Voilà.
Et puis, enfin, votre petit dernier qui vient de sortir.
Et le tout dernier qui vient de sortir, qui s'appelle Roland Bonaparte, le prince savant, qui est aussi avec Papillon Rouge, que je retrouve, celui avec qui j'ai fait mon premier livre. Et donc voilà, je suis contente de pouvoir présenter tout ça au public et je suis contente de pouvoir revenir avec vous sur l'épopée de la Statue de la Liberté et donc de mon premier roman.
Vous n'êtes pas non plus tout à fait inactive actuellement puisque je crois que vous préparez un deuxième roman.
Oui, ben j'ai commencé à y prendre goût. En fait, les biographies, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me prend beaucoup de temps et qui est assez fatigant. Et entre deux biographies, ben maintenant j'ai envie de prendre un peu de vacances, entre guillemets, parce que c'est aussi du travail, mais c'est un travail différent, avec les romans, où là, même si je fais des recherches historiques, il y a quand même une part d'improvisation et de création qui me plaît beaucoup aussi.
Oui, donc le prochain sera encore un roman à base historique.
Voilà, le sujet sera les femmes pendant la Première Guerre mondiale, mais après, j'en parle pas plus, voilà.
Non, en effet. Vos biographies, donc, comme votre roman Le Voyage de Lady Liberty, se déroulent dans une période historique assez précise, la deuxième moitié du 19e. Oui. Donc vous me dites que vous êtes en train d'évoluer un petit peu vers la Première Guerre.
Oui.
Mais d'où vous venait cette attirance pour ce moment précis ?
En fait, j'aime bien ce qu'on appelle la Belle Époque, donc ça se situe entre 1870 et 1914, donc effectivement, c'est entre les deux guerres. Il y a eu une guerre franco-prussienne en 70 et la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'entre ces deux périodes, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de choses qui se passent. Par exemple, il y a Pasteur avec le vaccin, il y a des avancées aussi dans les transports, sur le train, sur plein de choses qui font que voilà, la société évolue très vite vers la modernité. Et donc ça, c'est quelque chose qui me plaît voilà, à raconter. Et aussi par rapport à une thématique qui me plaît beaucoup, c'est le féminisme. C'est le début aussi des premiers pas des pionnières dans le féminisme, ou les pionnières dans plusieurs domaines comme le journalisme, la science. Et ça me plaît aussi à raconter.
Et c'est sûr que c'est une période charnière. Hein, c'est un moment où le monde, en fait, on change de monde. Et c'est ce que votre héroïne, d'ailleurs, va découvrir des fois, ses dépens aussi un peu.
Oui, mais c'est vrai que c'est une période qui, je trouve, peut être facilement utilisée pour écrire.
Voilà. Comme matière.
C'est ça.
Comme matière à l'écriture.
Il y a de l'inspiration, oui.
Donc, en effet, même s'il s'agit d'un roman, ici aussi, vous appuyez sur un gros travail documentaire. On sent qu'il y a... Ce qui n'est pas si facile, parce que l'un des défis de ce travail documentaire, c'est d'arriver à le faire disparaître un peu.
Oui, mais c'est ce qui me plaît en tant que lectrice. J'aime beaucoup aussi lire les romans historiques ou les romans policiers historiques parce que j'aime bien ce jeu que nous proposent les auteurs de mélanger la fiction et la réalité. et d'arriver à créer une nouvelle réalité, on va dire, quelque part. Et en même temps, je trouve que c'est des lectures qui nous permettent d'apprendre des choses. Et ça, j'aime bien aussi transmettre des informations. Et donc, le roman historique, je pense, s'y prête. C'est un peu plus léger que la biographie, voilà.
C'est un peu plus léger. Quelle est la part au niveau temps? Combien de temps ça vous prend à peu près cette recherche documentaire? Est-ce que vous arrivez à la quantifier ou...
Ben pour le tout premier, le premier livre sur Jeanne du Laffoy, j'ai mis 5 ans, mais c'est parce que je faisais pas que ça et que c'était le début, donc il fallait bien apprendre à faire le tri et savoir chercher. Maintenant, je suis plus sur une année parce que j'arrive à me... Voilà, maintenant j'ai ma méthode, donc c'est plus rapide. Et puis comme j'écris toujours un peu sur la même période, j'ai des informations qui se recoupent et donc j'ai plus besoin d'autant chercher. Donc,
puis vous savez
voilà.
Aussi, je suppose, mieux chercher.
Et c'est ça aussi, voilà, ouais. Je sais aller à l'essentiel,
aller fouiller,
ça fait gagner du temps,
oui.
Oui, voilà, c'est ça.
Et beaucoup de travail en bibliothèque ou sur Internet ou comment
ben,
ça
pour
se passe?
Pour le tout, celui que je suis en train de préparer, je suis allée aux archives départementales. Sinon, je vais souvent en bibliothèque pour trouver des ouvrages anciens que je ne trouve pas forcément dans le commerce ou sur Internet. Et ensuite, oui, beaucoup de recherches Internet. Et c'est vrai que maintenant, on a des outils qui sont assez bien développés. Comme à Toulouse, il y a Rosalis. Rosalis, donc c'est un site Internet, le site de la Bibliothèque du patrimoine, qui permet d'accéder à des archives comme les anciens journaux, des anciennes photographies. Et donc tout ça, ça aide beaucoup à faire des recherches.
Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette bibliothèque du
Oui.
patrimoine qui est...
Pour tous mes projets, je vais y faire un tour à chaque fois.
Oui, d'abord elle est très belle.
Aussi, oui, le lieu
Elle fait
est...
partie elle-même
C'est
du
ça.
patrimoine.
C'est ça, c'est un endroit en plus où j'aime... Voilà,
On
c'est agréable.
On aime bien y travailler.
Oui.
Donc effectivement, vous disiez vos sources, ça peut être des documents historiques, des photos, aussi des films, parfois peut-être, parce que j'ai vu que vous aviez aussi dans votre boîte à outils un diplôme de vidéaste. Et effectivement, vous utilisez sûrement cette formation dans vos, dans la... Enfin, on voit bien que vous visualisez les événements qui arrivent à vos personnages. Donc ça
Oui.
doit jouer aussi dans votre...
Oui, mais c'est vrai que, bon, après, à cette période, il n'y a pas trop d'archives vidéo, mais du moins, les documentaires, les films sur cette période, voilà, sont assez riches
Oui, on en a
d'informations.
quand même des
Voilà,
documentaires.
c'est ça. Et après, quand moi j'écris, c'est vrai que j'ai une écriture un peu visuelle aussi, parce que je m'imagine les scènes dans ma tête comme des épisodes d'une série, en fait. Voilà.
Oui, il y a un petit peu à
C'est
côté
ça.
série.
Voilà. Et donc, à chaque fois, il faut que chaque chapitre raconte une nouvelle chose pour rebondir et que ça fasse avancer
Oui,
la trame.
des fois, on sent, en particulier dans votre premier livre sur Jeanne de Laffoy, on sentait le cliffhanger, on sentait que...
Oui,
Ah,
j'aime
que
bien
va-t-il
laisser. Ben,
arriver
c'est ça.
à Jeanne maintenant, quoi?
Oui,
Quel
parce
est le
que
prochain
voilà.
épisode?
Parce que même dans des biographies, je trouve qu'il faut s'amuser un peu à créer du suspense pour le lecteur aussi.
Tout à fait.
Voilà.
Donc, parmi les sources éventuelles littéraires, ou en tout cas qui peuvent vous avoir guidé, en tout cas votre personnage, la brave Gabrielle,
Gabriel Saint-Géniès, oui.
voilà. Gabriel est fanatique de Jules Verne, qui à
Oui.
l'époque, évidemment, est un auteur tout à fait contemporain. Est-ce
Oui.
que je pense que c'est un petit clin d'œil aussi à vous?
Oui, ben en fait, moi, j'ai toujours aimé les romans d'aventure. Je sais qu'un de mes premiers livres, enfin, une première lecture adulte, on va dire, entre guillemets, poussée par ma prof de français, c'était L'île au trésor. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une histoire de trésor, de voyage, de bateau, c'est quelque chose qui me plaît déjà en tant que lectrice. Et j'avais envie de retrouver ça dans mon livre. Et comme je parle de la traversée de la Statue de la Liberté de Rouen à New York, ça s'y prêtait, donc je me suis replongée dans la lecture de Jules Verne et j'ai eu envie, voilà, que mon héroïne soit fan de ce personnage parce que je pense qu'il y avait beaucoup de jeunes à son époque,
Ah
garçons
oui, bien
comme
sûr.
filles, qui étaient vraiment influencés par cet auteur assez novateur.
Mais sa démarche se rapproche d'ailleurs un peu de la vôtre, hein, puisque finalement, votre roman, en tout cas, celui-là, la Miss Liberty, la Lady Liberty, mais même dans la vie de Jeanne de Laffoy, vous souhaitez instruire votre lecteur. Il y a cette dimension de pédagogique, quelque part.
Oui, après, c'est vrai que Jules Verne, lui, faisait des choses sur l'anticipation. Lui, il s'est intéressé aux inventions de son époque qui le faisaient rêver, au futurisme. Alors que moi, oui, c'est vrai que je m'inspire de choses passées.
C'est
Donc,
vrai.
Voilà. Mais sinon, oui, ce côté faire des recherches et s'en servir et instruire, ça, oui, c'est quelque chose qu'on a en commun.
Est-ce qu'il y a d'autres auteurs, un auteur qui vous aurait touché particulièrement ? Parmi tous ces ouvrages que vous...
Les anciens ou des contemporains,
Oui.
Des auteurs de tout bord.
Oui, quelqu'un qui vous influencerait ou à qui pourrait vous servir un peu de...
De modèle. Dans la biographie, par exemple, j'avais bien aimé le travail qu'avait fait, je ne vais pas me tromper dans son nom, je crois que c'est Philippe Besson. Ça s'appelait Vivre vite et c'était la biographie de James Dean. Et
D'accord.
il avait fait ça de façon très originale. En fait, il faisait parler James Dean, le fantôme quelque part de James Dean, et ensuite toute sa famille et tous les gens qu'il avait connus. Et après, je m'étais documentée sur la vie de James Dean, et effectivement, tout ce qu'il disait était vrai, sauf qu'il avait trouvé un prisme différent pour raconter les choses, et j'ai trouvé que c'était génial comme idée. Et donc, dans ma nouvelle biographie, j'ai essayé un peu voilà, de me servir de choses un peu différentes pour arriver à raconter et passionner le lecteur.
Bien sûr,
Voilà.
d'avoir un autre regard que...
C'est ça, que le regard peut-être un peu trop académique parfois qu'on peut avoir sur une biographie.
Dans le cadre de votre roman sur Lady Liberty, le fait d'avoir pris justement cette héroïne vous permet d'avoir cet autre regard, en fait, un regard un peu subjectif, mais on en reparlera un peu plus tard. À propos de ce qui pourrait être l'écriture et l'écrivain dans ce roman, puisque vous citez Jules Verne, mais vous ne citez pas que lui.
Oui.
Et il y a un des passages que j'ai trouvé assez émouvant. Le moment où, sur ce bateau, la jeune Gabrielle est tout à fait heureuse parce qu'elle peut enfin goûter
à
un repas.
À l'aventure.
Alors
et
que
puis oui, elle peut manger
elle
aussi
peut
parce
enfin
que...
manger parce que jusque-là, elle a été en proie au mal de mer.
Oui.
Mais crac, une mauvaise nouvelle tombe et c'est la mort de Victor Hugo.
Oui, j'ai voulu l'inclure dans mon récit parce que donc le voyage de Lady Liberty, ça raconte l'histoire du transport de la Statue de la Liberté. Et donc le moment où ça se passe, en fait, coïncide avec le décès de Victor Hugo, qui était vraiment une grande, grande personnalité de son temps, même à l'international, il était connu partout, même en Amérique. Et donc son décès, en fait, va faire que le départ de Lady Liberty passe un peu à la trappe, en fait, dans les médias. Et comme moi, je voulais écrire sur le transport de la Statue de la Liberté, j'ai fait des recherches dans les médias. Et à la date de son départ, ben, je trouvais que des entrefilés, des choses toutes petites, parce qu'en fait, le décès de Victor Hugo prenait toute la place. Et donc, j'ai trouvé judicieux de l'intégrer dans mon récit, d'autant qu'il a un rapport un peu assez étroit avec Auguste Bartholdi, qui a fait la Statue de la Liberté, puisque voilà, ils se connaissaient. Et la dernière sortie publique avant son décès de Victor Hugo, c'était pour aller voir l'atelier de Bartholdi et la construction de la statue.
Oui, d'ailleurs, il y a quelques très jolies pages justement sur cet
Sur cette
échange,
rencontre, oui, voilà. Ouais.
Qui a
Donc,
été chargé d'émotions pour les deux finalement.
C'est ça, pour les
C'était
deux, oui.
Deux monstres sacrés qui se rencontraient.
C'est ça, et donc j'ai trouvé voilà, normal d'intégrer Victor Hugo, que j'apprécie beaucoup aussi donc, voilà, dans l'histoire.
Parce que lui, c'est vrai que lui, Victor Hugo aussi était quelqu'un qui...
C'était quelqu'un, oui, qui aimait beaucoup aussi, pareil, la liberté, qui défendait ses causes voilà, de façon vraiment viscérale. Et le symbole de Lady Liberty et le fait de cette union entre les peuples, parce que c'était pour rapprocher un peu le peuple américain et le peuple français, c'était quelque chose qui avait du sens pour lui.
Oui, tout à fait. Et vous insistez d'ailleurs à plusieurs reprises sur ce... Enfin, vous insistez. Je pense que c'est bien une métaphore de cet idéalisme, finalement, que ce passage entre les deux...
Entre deux
Entre deux
civilisations,
démocraties,
oui, c'est ça.
finalement.
Oui, entre... Et puis, la vieille Europe, on va dire, et puis le nouveau continent... qui est pleine de modernité et de choses qui vont faire que mon héroïne, elle est assez subjuguée par son arrivée à New York, par exemple.
Oui,
Et ça, c'est quelque
ça
chose... Voilà.
On en parlera bientôt, je pense. Mais effectivement, Il y a toute cette transformation du monde à laquelle Gabriel va être confronté, et c'est particulier la transformation des villes, que ce soit à Toulouse, Londres, Paris et New York finalement.
Oui, parce que je la fais voyager au départ. Donc c'est une journaliste qui travaille à La Dépêche à Toulouse. Ensuite, elle va aller en Angleterre pour un voyage un peu improvisé à la rencontre des suffragettes. Et ensuite, elle part donc faire ce voyage jusqu'à New York. Et c'est vrai qu'à chaque fois, au fil de ces rencontres, voilà, elle est confrontée à cette modernité qui est galopante à cette époque, qui peut plaire et en même temps donne un peu le vertige.
Donne un peu le vertige, oui, c'est vrai, les premiers
Building,
gratte-ciels.
c'est ça, oui.
Et vous faites un petit détour d'ailleurs par Chicago, hein.
Oui,
mais
après,
un
peu plus tard
dans le
récit,
voyage.
Je me suis amusée à la faire un peu voyager un peu plus loin parce que je trouvais intéressant de confronter cette jeune fille à ce monde en perpétuelle
Et donc,
construction.
oui, c'est à ce moment-là qu'elle va trouver les gratte-ciels. Mais c'est vrai que pour des habitants de Toulouse, c'est sympa de voir aussi le caractère.
Oui, je parle des percées haussmanniennes à Toulouse, la création d'Alsace-Lorraine. Oui, elle d'ailleurs, elle va habiter dans cet endroit-là. Je la fais loger pas loin de la place Victor Hugo d'ailleurs, du marché Victor Hugo. Et donc oui, c'est important pour moi aussi le début de mon récit est beaucoup ancré sur Toulouse.
Ouais. Oui, je pense que c'est intéressant justement par rapport au parcours de votre héroïne, c'est-à-dire qu'elle a un monde comme toute personne qui sort un peu de l'enfance ou de l'adolescence.
Oui, puisqu'elle a à peine
Elle a un
20
monde
ans,
finalement assez restreint. C'est une femme en plus, fin 19e, bon.
Voilà.
Et puis peu à peu, son monde, on voit qu'il grandit.
Il s'ouvre de plus
s'ouvre.
en plus, oui. Et en même temps, elle, ça l'a fait grandir aussi. C'est
Tout
ça
à fait.
Qui est
C'est un roman
intéressant.
d'apprentissage, quelque part,
Oui,
ce
voilà.
voyage.
Oui.
Et donc, il y a la transformation de la ville. Il y a l'évolution des journaux aussi, à travers la ville de La Dépêche.
Oui, et je me suis amusée parce que, en fait, pour. Le début de cette idée de roman, c'était en fait que le capitaine du bateau qui a transporté la Statue de la Liberté, c'est vraiment pour de vrai un Toulousain qui s'appelait Gabriel Lespinasse de Saône. Et donc c'est en découvrant son existence que j'ai imaginé ce roman. Et j'ai voulu en faire, mon héroïne, en faire une journaliste. Et comme La Dépêche existait déjà à cette époque, je l'ai intégrée à ça. Et donc je raconte un peu les coulisses de La Dépêche.
Très bien, très bien. D'ailleurs, ma foi, on parlait un peu de New York, un petit peu de Toulouse.
Oui.
Nous avons près de nous, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui a fait un peu le voyage aussi et
Oui.
pour qui ça a été une renaissance quelque part.
Oui.
Hein?
Et
Et
une inspiration de chanson aussi.
une inspiration de chanson.
Oui.
Donc nous avons votre premier choix.
Oui, voilà. Donc je vous fais écouter Nouga York de Claude Nougaro, donc un ambassadeur de Toulouse à New York.
Et son cri égale façon jambon du rock.
Nous reprenons notre échange avec Audrey Marty autour de son roman « Le voyage de Lady Liberty » aux éditions des Presses littéraires. Audrey Marty, nous vous parlions avant cet intermède Nougaro. Oui. Nous parlions de l'évolution des journaux en particulier, et en particulier de celui de La Dépêche. La Dépêche, journal toulousain bien connu, où notre héroïne, Gabrielle Saint-Génier, est reporter. Donc, que pouvez-vous nous dire un petit peu sur La Dépêche de l'époque et,
Oui, sur mon héroïne. Ouais. En fait, pour créer le personnage de Gabrielle Saint-Génier, je me suis inspirée en fait de Nellie Bly, qui est la première grande reporter américaine. D'ailleurs, je l'ai fait un peu se rencontrer plus ou moins quand elle va à New York, où elle va rencontrer son rédacteur en chef. Et donc, voilà, je me suis inspirée de cette personnalité qui était une des premières femmes à aller vraiment sur le terrain. Et donc, j'ai permis à Gabrielle Saint-Génier, voilà, d'être quelqu'un qui va sur le terrain et qui a du courage et du tempérament. Et je l'ai fait travailler donc à La Dépêche. Et La Dépêche existe depuis 1870. Et en fait, c'est à cause de la guerre qu'il y a eu à cette époque-là. Les Toulousains trouvaient qu'ils n'étaient pas assez bien informés de ce qui se passait dans le reste de la France. Et donc, on a créé le journal qui, au début, était que sur une page. Et au fur et à mesure, il est plus élaboré. Il y a de plus en plus de journalistes qui y travaillent. Et Gabrielle est la première femme à y travailler. Mais en fait, il va falloir attendre 1913 pour qu'il y ait une vraie première femme à La Dépêche. Et pas 1885 comme la mienne. Donc moi, j'ai pris un peu...
Vous avez pris des libertés,
c'est
là.
C'est ça, un petit peu, voilà.
Vu le sujet, Lady Liberty, vous pouviez vous en permettre quelques-unes.
C'est ça. Et du coup, dans le livre, les gens pourront un peu découvrir aussi les coulisses du début de La Dépêche. Voilà.
Oui, à la fois les coulisses et puis l'évolution technologique, hein, puisque oui. C'était aussi de cela dont on parlait. Cette période est riche en découvertes techniques.
Et du coup, on peut se tenir au courant aussi par câbles qui sont placés sous l'océan. D'Amérique en Europe, les nouvelles passent assez vite quand même.
Donc, oui, c'est le début, le début du câblage des océans.
Voilà, c'est ça. Et donc, ça en fait partie, en fait, l'histoire.
Et puis, il y a aussi, je crois, au niveau de l'imprimerie. Vous nous parlez aussi des progrès de l'imprimerie.
Oui, et du coup, ça fait que les journaux sont imprimés plus rapidement et ils peuvent faire plusieurs pages aussi. Ça devient de plus en plus, ils s'étoffent le journal. Et voilà,
ils étoffent aussi, du coup, effectivement, le contenu. C'est ça. En fait, la forme leur permet, la forme permet de faire évoluer le fond.
C'est ça, et ensuite, après, ils peuvent se déployer sur toute la région, comme c'est encore le cas de nos jours. Voilà.
Alors, l'évolution, les découvertes techniques, elles sont dans tous les domaines. Il y a une partie aussi qui est intéressante, qui est celle qui est consacrée à l'évolution des bateaux, puisque vous nous décrivez assez finement l'Isère, qui est le bateau qui a servi
au transport de la Statue de la Liberté. Ouais.
Voilà.
Oui.
Et donc, et puis, il y a aussi la performance artistique et technique que représente cette statue.
Oui, voilà, j'ai lu plusieurs biographies consacrées à Auguste Bartholdi et aussi je me suis renseignée sur l'Isère et le transport de la statue par le biais du musée Bartholdi à Colmar, qui m'ont permis d'avoir quelques archives. Et donc oui, j'ai voulu bien rendre concrète cette traversée en décrivant vraiment le bateau de façon très technique, on va dire, quand même. Et c'est vrai que c'était des bateaux, voilà, les premiers grands transatlantiques, en fait, c'est des bateaux fabuleux qui vont vite, hein, qui mélangent la vapeur avec la vapeur et la voile, voilà, pardon.
Oui, il y a encore une partie voilà. Aérienne, en fait.
C'est ça, voilà. Et c'est vrai que ça, c'était intéressant aussi à raconter. Et donc voilà, puis j'avais envie aussi, j'ai toujours rêvé, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime beaucoup les livres où ça se passe sur des bateaux. Et je m'étais un peu lancé aussi le défi en tant qu'écrivaine d'arriver à décrire une tempête, une tornade, à décrire une traversée. Et donc, il a fallu un peu se renseigner sur du vocabulaire spécifique. Et c'est quelque chose qui, voilà, qui était intéressant, un défi à relever qui m'a plu.
Oui, et puis effectivement, y a, dans ce voyage, il y a des tempêtes, il y a des...
Et que je n'ai pas inventé, c'est vraiment comme ça que s'est passé la traversée.
Le voyage, ouais, oui, et effectivement, ils
mouvementé.
Sont arrêtés sur cette île,
oui.
En plein milieu de l'océan.
Des Açores, ouais, ils ont dû faire une escale parce qu'il y avait trop de houle, et donc elle en a profité pour mon héroïne pour visiter un peu cette île aussi.
Et vous aussi, du coup, par la même occasion.
Et voilà, et du coup, je me suis aussi renseignée sur cette île des Açores pour ne pas raconter des bêtises. Et donc voilà, et c'est vrai que cette traversée est vraiment une épopée dans tous les sens, en fait, voilà. Aussi
oui.
Bien parce qu'on transporte quelque chose qui n'a jamais été transporté. Il y a plusieurs tonnes de pièces pour la Statue de la Liberté.
Et oui, parce que vous disiez que donc la statue, elle, telle qu'elle est, ça représente c'est un mastodonte de métal.
C'est ça.
Donc 300 feuilles de cuivre, dites-vous, martelées à la main sur un squelette d'acier. Donc ça aussi, ça pèse. Et c'est ce que l'ensemble occupe sur ce fameux bateau, 210 caisses.
Oui.
Où chacune pèse plusieurs tonnes.
C'est ça. Donc,
il faut vraiment un bateau costaud.
Voilà,
quoi.
Costaud, c'est ça, pour rapporter tout ça là-bas. Et puis bon, si ça avait été perdu en mer, ça aurait été vraiment catastrophique parce que Auguste Bartholdi a mis beaucoup de temps et aussi de son argent pour que cette statue fonctionne. Et d'ailleurs, ça lui a permis aussi, ça a été un des premiers à se servir un peu des goodies, ce qui maintenant, les petits accessoires...
Les produits dérivés.
Les produits dérivés, voilà. Et lui s'en est servi, puisque tant que sa statue n'était pas construite, il faisait visiter son atelier, il vendait des mini-têtes de la statue, des mini-mains avec la flamme. Enfin, voilà, c'était...
Oui, c'est ce que vous dites dans votre roman, à un moment où... à l'exposition universelle.
C'est ça, voilà.
On présente la tête de Liberty.
Oui, et juste son bras avec
la
flamme. Parce qu'on n'a pas pu tout faire. Et donc, ça aide à construire le reste, en fait, à amener des fonds. C'est ingénieux aussi, voilà.
Mais effectivement, pour Bartholdi, il y a énormément d'enjeux, quoi. C'est sa vie qui se joue là, finalement.
C'est ça. Et puis, arrivé sur place, il va y avoir aussi des soucis, puisque le piédestal n'est pas prêt et que c'est les Américains qui doivent le construire. Et ça aussi, ça met encore plus de complications dans toute cette histoire.
Bien sûr.
Voilà.
Vous montrez qu'en effet, les Américains sont... moins prêts, moins engagés finalement que les Français, ou pas engagés de la même manière.
Oui, et puis je ne sais pas comment dire, ils s'attendaient à ce qu'on leur offre tout de A à Z, et c'est vrai que quand ils s'aperçoivent qu'il y a un coup pour le piédestal, ça ne leur plaît pas trop, et puis finalement c'est Joseph Pulitzer qui justement, tout à l'heure j'en parlais, je ne trouvais plus son nom, qui était donc le rédacteur en chef de Nellie Bly, qui m'a inspirée. C'est lui qui va faire une demande dans les journaux de souscription pour que des Américains puissent participer à payer le piédestal, parce que lui, il trouve ça quand même aberrant que
la France paye tout, quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc finalement, il y a des gens qui vont donner les fonds nécessaires. Donc c'était quand même un projet qui était à visée populaire, même si après ça a été récupéré par le gouvernement qui va faire l'inauguration sans les femmes et sans les ouvriers et les gens de couleur. Voilà, c'est un peu limité.
Oui,
alors que
c'est
le symbole de la liberté, Lady Liberty. Donc,
oui, ça c'est l'un des points que vous aborderez après.
Oui, ouais.
Mais c'est un point qui a beaucoup... choquer votre
mon héroïne,
votre
et du
héroïne.
Coup, oui.
Mais bon, ça,
je, oui,
va,
elle parle
va...
à travers, c'est moi qui parle à travers elle.
oui, c'est vous qui parlez à travers elle. Mais c'est vrai que c'est assez particulièrement impressionnant le fait que les ouvriers qui ont travaillé à cette statue,
oui, sont même pas invités à l'inauguration,
sont pas récompensés finalement d'une manière symbolique au moins.
C'est ça, oui, au moins d'assister, c'est ça.
Et parce que votre héroïne va nouer un lien de sympathie assez fort.
Oui.
On en parlera un peu plus loin peut-être, avec l'un des ouvriers qui est embarqué aussi sur ce bateau, qui est un ouvrier italien.
Oui, parce qu'il y a eu beaucoup, pour construire la statue, en fait, Auguste Bartholdi n'est pas venu, n'a pas accompagné la statue, il est venu après pour l'inauguration, mais il a envoyé quelques ouvriers qui travaillaient avec lui à Paris, dans son atelier, pour aider les Américains à reconstruire la statue, parce que bon, il faut tout remettre en place, même si ils ont pensé, ils ont des caisses numérotées, c'est quand même mieux qu'il y ait des gens qui connaissent vraiment le projet depuis le début. Et parmi les ouvriers, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'ouvriers qui venaient d'Italie, qui ont travaillé à la statue, et beaucoup sont restés après vivre à New York.
Oui, c'est ce que vous décrivez. Il y a l'oncle de...
Qui vit déjà là-bas, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de migrants qui sont partis aux États-Unis à cette période, et notamment beaucoup de gens d'Europe du Sud.
Donc ça, c'est intéressant aussi pour notre héroïne, parce que sur ce bateau, elle va justement découvrir...
Les classes sociales
les classes
aussi,
sociales.
C'est ça, parce qu'elle est d'un milieu bourgeois.
Elle était assez préservée jusque-là.
C'est ça, et cette traversée lui permet de rencontrer d'autres personnes, les marins aussi, elle va se lier d'amitié avec le capitaine du bateau, et donc c'est quelque chose d'intéressant de jouer sur ces...
Le capitaine, le sous-lieutenant qui est...
Qui est, Hippolyte Mulin, qui est un peu son assistant, parce que je me suis amusée à faire d'elle une pauvre jeune fille qui a le mal de mer, donc c'est compliqué au début pour... Mais je trouvais ça amusant pour la trame narrative, et puis finalement, après, elle va vaincre son mal de mer, donc...
Oui, ça fait partie de l'humour de votre texte.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
qu'à la fois, elle est très enthousiaste, Gabrielle, et...
Mais les choses concrètes...
Elle est de temps en temps rattrapée... Elle ne veut pas être une faible femme, mais enfin, de temps en temps...
Elle ne peut pas y échapper, oui.
Elle est quand même...
C'est vrai.
Ramenée à sa condition de femme ou d'être humain.
Oui, c'est ça.
Comme quand elle se met à chercher une robe dans New York parce que...
Elle a oublié,
Elle n'a pas prévu...
De robe pour l'inauguration, oui, c'est un peu... c'était amusant. Mais du coup, ça l'a fait visiter New York, c'était aussi l'occasion.
Oui, avec... Elle ne la visite pas d'ailleurs tout à fait avec n'importe qui, hein.
Oui, elle est en Angleterre, je lui ai fait rencontrer une journaliste américaine qui est donc la rédactrice en chef du Harper Bazaar, qui existe encore d'ailleurs, ce magazine. Et donc c'est elle qui est, comme elle a une culture française et qu'elle parle français, elle va l'aider à découvrir cette grande ville, parce que tout seul, c'est un peu difficile.
Non, puis c'est intéressant aussi, parce que justement, il y a l'introduction grâce à ces personnes anglo-saxonnes, en fait, il y a cette introduction à une forme de sororité.
Oui,
qui
aussi.
Commence un petit peu en Angleterre quand elle rencontre les suffragettes, mais
qui se poursuit
à New York.
Oui, parce que c'est vrai que les premiers grands mouvements féministes, ils viennent vraiment des pays anglo-saxons.
Oui.
Voilà, c'est eux qui ont initié ça, et après, ça se développe un peu partout, notamment en France.
Ça se développe plus lentement en France,
plus lentement, mais bon, petit à petit. Mais il y a eu... Gabrielle est un personnage inventé, mais il y a eu d'autres femmes de son temps qui ont aidé à... En France, un peu, ouvrir les choses, comme par exemple la journaliste Séverine.
Oui, bien sûr, effectivement.
Voilà, il y en a de temps en temps quelques-unes qui sortent du lot.
Oui. C'est un peu ce qui a guidé votre choix pour la deuxième musique, je crois.
Oui, la deuxième musique, c'est une musique que j'écoutais aussi dans ma jeunesse. Donc, c'est Woman de Nénette Chéri, et donc, ça parle des femmes.
D'auteur.
Nous retrouvons donc Audrey Marty autour de son roman Le voyage de Lady Liberty aux éditions des Presses littéraires. Nous avons eu ce petit intermède musical qui nous parlait des femmes.
Des femmes, voilà, oui.
Et nous étions en train d'évoquer avec Audrey justement.
La sororité entre
la sororité
les femmes.
La sororité entre oui. les femmes, en particulier cette sororité que Gabrielle, son héroïne, découvre,
oui.
soit
à Londres.
Soit à Londres, soit oui. à New York.
Oui, oui. Ben à Londres, elle va rencontrer en fait Elizabeth Garrett Anderson, qui est la première médecin du Royaume-Uni. Et c'est vrai que donc, c'est un vrai personnage qui a vraiment existé. Et elle se rend à Londres en fait à un moment donné où les femmes voilà, veulent introduire le droit de vote dans la loi puisqu'il y a un nouveau gouvernement qui vient de se mettre en place. Et donc elles se sont réunies voilà, pour essayer de faire changer la loi en leur faveur. Et elle va s'apercevoir quelques temps plus tard que ça leur a été refusé. Et donc Gabrielle voilà, s'aperçoit que c'est compliqué en fait, pour les femmes, même celles qui essayent de s'émanciper, d'y parvenir.
Alors, elle va retrouver une partie des féministes dans son voyage en Amérique.
Oui, voilà.
Puisqu'elle va être accueillie là-bas par...
Oui, en fait, elle assiste à la cérémonie d'inauguration de la Statue de la Liberté. Et elle s'aperçoit que ses amies qu'elle a connues en Angleterre sont venues pour un peu manifester parce qu'aucune femme n'a été invitée à l'inauguration de la Statue de la Liberté. Et donc, elles viennent avec leur pancarte un peu pour râler. Et donc là, elle va préférer quitter l'inauguration et les rejoindre. Et donc là, elle va faire un peu un tour dans New York et se rendre compte voilà, de la difficulté de ces femmes à s'imposer. Mais en contrepartie, elles ont des choses qui lui plaisent, comme elles ne sont pas obligées de se balader avec un chaperon dans la rue. Et elles peuvent lâcher leurs cheveux aussi. Elles ne sont pas toujours obligées d'avoir un chapeau. Et donc ça, c'est des choses qui lui font plaisir.
Oui, qui effectivement, en tant que Française, oui. elle était obligée à chaque fois de se promener avec un
voilà.
homme, quoi.
C'est ça, mm-hmm. ou une autre dame,
ou
sa mère,
quelconque.
Voilà, c'est ça. Donc là,
il y a un épisode assez comique, en effet, dans le roman,
oui.
où elle est toujours avec un des marins.
Oui, qui est toujours en train de la suivre, mais comme il va avoir un problème, il va se casser la jambe, elle va avoir
elle
la
va
possibilité
enfin avoir
voilà,
un peu la liberté
de souffler.
Aller s'acheter.
C'est ça, une robe
faire,
avec,
voilà,
une,
avec une amie. Américaine.
Oui.
Et donc, effectivement, pour la cérémonie, elle est obligée d'avoir une robe. Mais il faut voir qu'effectivement, à cette époque, le pantalon, en France, en tout cas, est totalement interdit. Ce n'est permis que si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval.
C'est ça, voilà. Hein? Ou si son métier l'exige, si par exemple, elle est dans un atelier, quelque chose de particulier.
C'est comme ça que Rosa Bonheur avait réussi à
porter un pantalon,
puisqu'elle
était peintre.
Peintre animalier, elle était dans la boue tout le temps.
Oui, voilà.
Ou en tout cas, elle pouvait faire valoir cet argument.
Une question de praticité, oui.
Mais il fallait effectivement demander au préfet.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et ça, c'est un élément que vous rendez particulièrement bien dans votre livre, le conflit entre les préjugés
et le côté pratique
et
aussi,
les peurs de votre héroïne.
Oui.
Et son aspiration enthousiaste, parce qu'elle est très enthousiaste, à la liberté et à l'égalité des droits. Elle a un côté un peu Tintin, par certains côtés.
Oui, c'est Tintin reporter, féminin, on va dire. Oui, oui, c'est ce côté-là. Voilà, son voyage va vraiment lui ouvrir les yeux sur le monde. Et donc, elle va essayer de capter. Il y a des choses en Amérique qui lui plaisent et d'autres moins, comme la difficulté des anciens esclaves à trouver du travail. Enfin, elle va visiter aussi elle veut essayer de visiter des réserves d'Amérindiens, elle ne pourra pas y arriver, mais elle va rencontrer quand même Sitting Bull. Et c'est vrai que voilà, je voulais aussi la confronter à ces gens-là qui, eux, dans ce pays dit de la liberté, continuent à avoir des difficultés.
Oui, parce que elle fait un premier voyage pour accompagner la statue.
Oui.
Et puis, elle en fait un deuxième, qui est beaucoup plus simple, pour l'inauguration. Et pour rester elle reste un peu plus longtemps en Amérique à ce moment-là.
Et à ce moment-là, voilà, elle
va
visiter.
Et c'est le moment où elle va visiter Chicago.
Oui.
Et effectivement, rencontrer Calamity Jane.
Calamity Jane aussi.
Enfin, elle va rencontrer un concentré d'Amérique
en peu de temps, c'est
finalement.
Ça, voilà, oui. C'est l'avantage du roman.
Et voilà, et retrouver son ami Luigi.
Oui, c'est ça, son ami italien.
Donc, ce qui était sympathique aussi dans ce roman, qui est un roman d'apprentissage, c'est à la fois un roman historique, et c'est aussi un roman d'apprentissage, et où finalement notre héroïne découvre pas forcément l'amour, contrairement. Enfin,
oui, elle n'est pas prête encore.
Elle n'est pas prête, et c'est quelque chose qui est très sympa, parce que justement, on n'est pas dans la figure convenue.
Oui.
Mais elle va créer un triangle amical, en fait, avec Luigi et puis Hippolyte Mulin.
Mulin, voilà, son protecteur sur le bateau. Oui, mais ça m'amusait de jouer aussi un peu avec le lecteur qui va peut-être s'imaginer qu'il y a une romance. Et puis, comme elle est tellement à fond dans son voyage et dans sa découverte, voilà, les histoires d'amour, c'est pas encore à l'ordre du jour pour elle. Mais
c'est pas pour tout de suite.
Voilà. Mais peut-être si je fais une suite, peut-être que là, il se passera autre chose.
Alors, faire une suite, parce qu'en fait, vos personnages se suivent quand même souvent.
Oui.
Vous commencez votre roman par l'apparition d'un personnage important, qui est la marraine de l'héroïne. C'est Jeanne de la Foix. Mais la marraine de l'héroïne n'est-elle pas la marraine spirituelle de l'auteur ?
Ben oui, puisque comme je vous ai dit en introduction, mon premier livre était consacré à Jeanne Dieu la Foix, donc ma première biographie. Et c'est vrai que c'est un personnage que j'aime beaucoup, et donc j'aime bien l'introduire toujours un peu dans mes histoires aussi. Et donc c'était l'occasion pour ce roman, j'avais envie qu'elle soit là dans un petit clin d'œil. Et donc c'est elle la marraine de mon héroïne, et c'est elle qui va lancer l'histoire en fait. Et j'avais peut-être besoin qu'elle soit là pour me lancer aussi dans le roman. Voilà.
Probablement, en effet. Ouais. Qu'est-ce qui vous lie de si fort à ce personnage ?
Je sais pas, c'est parce que oui, j'ai écrit sa biographie. Du coup, j'ai travaillé 5 ans sur elle, donc forcément, ça crée des liens de travailler 5 ans sur un même sujet. Et oui, puis j'ai l'impression qu'elle me porte bonheur à chaque fois. Il se passe des trucs bien. Récemment, je suis allée à Paris pour les Journées du Patrimoine pour inaugurer pour faire une visite en fait de l'hôtel particulier qui lui a appartenu. Et qui appartient maintenant à la Croix-Rouge. Et donc la Croix-Rouge m'a fait l'amitié, 5 ans après la sortie de mon livre, de m'inviter pour parler de Jeanne chez elle. Et donc
émouvant. Hein.
C'est ça, et c'était pas prévu. Et donc c'est ce que je vous dis, elle est toujours là pour me faire des petits clins d'œil sympathiques.
Probablement que vous vous ressemblez par certains côtés.
Ouais, peut-être. Mais après, elle a eu une vie quand même plus compliquée que... Enfin, c'est une bourgeoise, mais elle a eu une vie compliqué. Je trouve que maintenant, c'est quand même plus facile de porter un pantalon.
Ah oui,
il y a
bien
des choses plus, voilà, il y a des choses plus... Mais oui, son côté un peu pas faire comme tout le monde, essayer de faire bouger les choses à son petit niveau, oui, je trouve que voilà, c'est quelque
Et
chose
puis
qui
elle
me parle.
a un sens de l'humour, probablement, qui n'est pas trop loin du vôtre.
Oui, mais dans chaque
Elle voit le petit
difficulté, voilà, elle
côté, le petit
s'amuse,
côté
c'est ça.
rigolo qu'il peut
Oui.
y avoir. Par exemple, votre héroïne, elle est sous la pluie, elle reçoit toute la pluie du monde à New York.
Oui.
Elles sont là, toutes les suffragettes sont dégoulinantes,
Oui.
assez dépitées de ce qui leur arrive au moment de
Oui.
l'inauguration. Puis finalement,
Elle trouve du réconfort en allant manger des pâtes avec une soupe avec
avec
minestrone,
leur
avec des
repas
Italiens.
italien. Bon,
Oui.
il y a ce côté un peu aussi humoristique.
Oui, mais je trouve qu'il faut. Fait,
Et peut-être ça.
quand j'écris, il faut que j'y prenne du plaisir, donc ça me fait rire. Et si je peux faire rire mes lecteurs aussi, ben voilà, c'est un petit
Mais
plus.
effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez. En
Oui,
tout
Jeanne
cas,
Dieu
dans
la
les
foi,
écrits
oui.
que vous avez relevés dans votre premier livre
Oui.
sur Jeanne de la Foi,
Oui,
qui elle aussi, ma foi, dans les circonstances les plus.
Oui, trouve,
Dramatique,
voilà,
elle
trouve
arrive à
toujours.
trouver quelque chose qui pourrait.
Voilà, rendre ça plus facile ou se dire, bon, c'est la vie, ça passera.
Voilà.
Ouais.
D'ailleurs, Jeanne de la Foi écrivait aussi beaucoup, puisque à l'époque, elle est beaucoup moins connue maintenant. Vous
Oui.
faites tout votre possible pour qu'elle le soit plus,
Oui.
mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui publiait beaucoup et qui publiait des récits de voyage, enfin de ses
Oui, elle a
voyages
publié les
en
récits de
mer,
ses voyages et
et puis
ensuite
des
elle
romans
a publié
aussi.
des romans. Oui, ça l'a. Mais ses premiers récits l'ont envoyée à faire ça.
Donc c'est vrai que c'est un personnage, cette affection que vous avez pour Jeanne de la Foi est aussi quelque chose qui est touchant.
Oui, c'est un peu une arrière-grand-mère ou quelqu'un, voilà, qui fait partie de mon maintenant de mon paysage et tous mes amis savent que voilà, c'est important pour moi.
Vous déclariez comme ça dans le prélude de votre biographie. J'ai envie juste de citer ce passage. En cette matinée de novembre où le ciel ne semble pas vouloir laisser le soleil briller et nous réchauffer de ses timides rayons, mes pas me guident vers vous, ma Jeanne. Veuillez par avance me pardonner ce genre de familiarité, mais quand on a appris à vous connaître, on ne peut s'empêcher d'avoir envie de vous garder égoïstement auprès de nous. J'ai tissé avec vous, ma Jeanne, un lien particulier qu'il est temps à présent de partager. Et je pense que c'est peut-être ça qui vous décrit aussi,
Mais
regret.
dès que je travaille sur des biographies, c'est vrai que je m'attache forcément à tous ces personnages. Et comme ils sont pas connus, voilà, c'est ma mission de les sortir de l'oubli.
De
Voilà.
partager
C'est ça.
avec le lecteur.
Ben oui.
Il va être bientôt temps de nous quitter, Audrey.
Mais forcément. Toutes les bonnes choses ont une fin.
Ah bon, il nous reste 3 minutes.
Bon.
Qu'est-ce que vous auriez envie de nous partager?
Mais peut-être, oui, dire que pour le prochain roman, j'ai lâché la main de Jeanne Dieu la Foi et que maintenant je vais faire autre chose, voilà, qui parlera aussi des femmes, de femmes que je vais inventer, mais qui s'inspirent de femmes qui ont vraiment existé. Et donc, voilà, je vais essayer de rendre hommage aussi aux femmes. À ces femmes, voilà, qu'on a oubliées en 14-18, qui travaillaient, voilà, les petites mains de la poudrerie, des choses comme ça. Donc ce
Là,
sera ça,
il y a
voilà,
quelque chose en
notre...
effet à faire.
Oui, oui,
Vous allez
oui.
parler de toute la poudrerie de Poudreville.
Oui, qu'il y avait à Toulouse.
Ouais, c'est
Voilà,
énorme, hein.
c'est ça. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on a oubliées aussi, donc ça fait partie de notre patrimoine, et donc j'espère pouvoir le mettre en avant, voilà, dans un roman aussi qui, je pense, aura de l'humour aussi quand même, hein, parce qu'il faut, voilà, garder ma trame.
Oui, puis je pense que ces femmes avaient énormément de courage
C'est ça.
et probablement ne manquaient pas d'humour.
Voilà, il en faut, c'est ça.
Et sinon, justement, pour vos conférences, où peut-on trouver les dates si...
Sur mon site internet, audrey-marty.com. Voilà, on peut retrouver
Bien.
toute mon actualité.
Bien. Et je crois d'ailleurs que vous allez passer une prochaine fois encore à Radio Présence pour justement votre dernier ouvrage consacré à
Voilà.
Roland Bonaparte.
Voilà, qui est un homme, donc vous voyez, je fais la parité aussi.
Très bien.
Merci.
Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Présence et en podcast sur toutes les plateformes numériques. Au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine émission. Et merci à vous, Audrey, pour ce bon moment passé ensemble.
Merci beaucoup et à bientôt.